Ça y est, la fête est terminée? Non, elle commence, hein? Ça dépend de quoi on parle. En tout cas, vous avez remarqué, on a tous les signes extérieurs de la fête de Noël sont tombés ici aussi. On a enlevé les sapins, on a enlevé toute la déco, une partie en tout cas. Connaître, on a mis un nouveau titre, connaître, pour lancer cette nouvelle année. Vous n'avez pas remarqué quand vous êtes entré, non? Vous n'avez pas remarqué qu'il y avait eu le changement dans votre église? Connaître. Alors, à mon tour, bien sûr, de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'ai eu l'occasion de le faire avec un certain nombre d'entre vous, soit par téléphone, soit par texto, soit par de vive voix, comme ça a été le cas ce matin. Mais je voudrais bien sûr transmettre ainsi tous mes voeux à toute l'Église, vous tous. On est heureux de vivre ces moments ensemble. L'année 2017 a été une année bien remplie. On pense que la prochaine, celle-ci qui arrive, qui est devant nous, dans laquelle nous sommes entrés il y a quelques jours, eh bien, c'est pareil. Il y aura certainement beaucoup de choses qui vont se passer, mais pour cela, nous avons besoin d'être préparés par rapport à ce qui va se passer. L'année 2018 sera certainement, pour beaucoup d'entre nous et pour cette Église en général, une année charnière, une année grosse transition en fait. Et on verra à bien des égards. Dans les mois qui viennent, on prépare déjà des nouveaux rendez-vous pour cette Église. On va proposer aussi des nouvelles activités, nouvelles formes de réunion aussi. Enfin voilà, il y a bien des choses qui vont encore évoluer dans le but d'aller vers cette multiplication, puisque c'est le mot-clé de ces derniers temps, et ça sera encore pendant cette année 2018. Donc il faut se préparer pour la multiplication. Et pour cela, il faut que nous puissions mieux le connaître encore. Ça a été abordé la semaine dernière par Ulrich pour terminer l'année 2017. Et cette année, je vais poursuivre, ou ce premier dimanche de l'année, je vais poursuivre sur ce même thème, le connaître. Et connaître les richesses qui sont déjà les nôtres, en fait, mais que nous ne connaissons pas forcément. Ou peut-être que nous savons intellectuellement, mais que nous ne vivons pas réellement. Parce qu'il y a souvent là un décalage. Lorsque nous entrons dans une nouvelle année, bien sûr, l'avenir pour nous et pour tout être humain est plein d'incertitudes, hein. Malgré nos vœux, nos vœux n'ont pas le pouvoir de changer les choses. On ne sait pas ce qui va arriver et ce qui va nous arriver personnellement. C'est ce qui fait aussi le bonheur et la richesse de ceux qui sont chargés de prévoir ou d'annoncer l'avenir. Je crois que pour eux, le début de l'année, c'est la meilleure période, hein, la meilleure saison de l'année. Ils surfent comme ça sur les craintes et sur les peurs que les gens peuvent avoir du lendemain, face aux incertitudes qui génèrent bien sûr tellement d'angoisse ou tellement de peur. Pour nous chrétiens, la même chose, si les circonstances qu'on va vivre pendant cette année, nous ne le savons pas, c'est aussi incertain. Et comment échapper donc à la crainte ou à l'angoisse qui peuvent être liées à cette incertitude? Et notre garantie, notre solution, nous le savons, c'est Dieu lui-même qui connaît, lui, notre avenir, qui connaît toutes choses. Et donc d'avoir une meilleure connaissance de lui, de ce qu'il est et de ce qu'il nous a donné dans son salut. Le thème de la semaine dernière abordé par Ulrich, c'est « Qui dites-vous que je suis ?» La fameuse question que Jésus a posée à ses disciples après avoir passé un peu de temps avec eux. Il les a mis face à cette question. C'est la question qui nous a été posée, c'est la question qui nous est sans cesse posée. La question qui a été posée par cette dernière prophétie. Qui est-il pour nous en fait? Quel est notre regard sur lui? Je vais commencer ce matin là où Ulrich a terminé, en fait, la semaine dernière. Il ne le sait pas, mais le dernier texte qu'il a choisi pour clôturer son message la semaine dernière, ça va être le texte de notre méditation ce matin. C'est une des prières de Paul que nous allons lire ensemble. Quand Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Donc connaître Dieu d'abord. Ensuite, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Premièrement. Ensuite, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Deuxième richesse. Troisième richesse, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action, cette force, cette puissance dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom, qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Ça, c'est une des prières de Paul. Les théologiens appellent cette prière la prière d'illumination. Hein? C'est pas celle de Noël, là. Hein? Une illumination intérieure. Priant que Dieu illumine nos cœurs, nous éclaire, en fait, fasse comprendre des choses. Nous savons à quel point Paul était un très grand prédicateur, un grand enseignant de la parole. Ses enseignements ont apporté un éclairage inestimable sur la personne de Jésus, sur l'œuvre de Jésus. Nous avons 13 lettres dans le Nouveau Testament signées par Paul. Et je me dis, mais que serait le Nouveau Testament sans ces lettres de Paul ? Sans l'Épître aux Romains, par exemple ? On aurait du mal à comprendre certains aspects de l'Évangile. Heureusement que Paul est arrivé, que Dieu a utilisé Paul, il l'a éclairé lui-même, pour qu'il puisse éclairer l'Église, et nous aujourd'hui encore, sur l'œuvre que Christ a accomplie. Si les enseignements de Paul sont d'une valeur inestimable, il y a quelque chose que j'apprécie, que j'aime particulièrement, dans cet homme, l'apôtre Paul, ce sont ses prières. Ces prières sont extraordinaires. On connaît les prières de Jésus, quelqu'un qui priait, qui savait enseigner ce qu'est la prière. Mais Paul était aussi un homme de prière. Et la particularité des prières de Paul, c'est que dans ses prières, dans ce qu'il demande à Dieu pour les chrétiens, auxquels il écrivait, comme les chrétiens de l'église d'Éphèse, par exemple, mais aussi les Colossiens et d'autres églises et d'autres lettres dans lesquelles nous trouvons ces prières de Paul. La particularité donc de ces prières, c'est que ce qu'il demande dans ces prières ne correspond pas à cette quatrième pétition dans le Notre Père. Vous connaissez la quatrième pétition, la quatrième demande dans le Notre Père ? Donne-nous notre pain quotidien. Non ? C'est pas ça ? Donne-nous notre pain quotidien. Ce qui concerne toute notre vie terrestre, on peut dire, matérielle, physique, donne-nous notre pain quotidien. Vous regardez de près, celle-ci notamment, et les autres prières de Paul. Dans aucune de ses prières, Paul ne priait pour le pain quotidien de ses chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'il ne priait pas pour cela, bien évidemment. On est autorisé à le faire, Jésus nous a enseigné à le faire, et Prions pour notre pain quotidien et bénissons Dieu pour notre pain quotidien, pour le travail que nous avons, par exemple, hein, pour les biens matériels que Dieu nous donne. Nous pouvons prier pour cela, et Paul le faisait certainement, mais dans les prières qu'il rend publiques concernant ces chrétiens, comme les chrétiens de l'église d'Éphèse, on ne retrouve pas cela, en fait. On retrouve uniquement, en fait, Paul qui restait sur la première partie du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre comme au ciel. Ça, ce sont les premières demandes que Jésus a enseignées à ses disciples lorsqu'il les a enseignées sur la prière. Que ton règne vienne, que ta volonté. Dans Éphésiens 1, la prière de Paul, elle correspond plus à la troisième pétition, troisième demande dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'ambition de Paul, pour tous ces chrétiens, était qu'ils vivent en faisant la volonté de Dieu. Et pour cela, il faut connaître son nom, bien sûr, il faut connaître Dieu, et connaître les bénéfices de son œuvre et les richesses qui nous appartiennent, en fait. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin, dans cette prière de Paul pour les Éphésiens. Il y a trois richesses spirituelles qui appartiennent aux enfants de Dieu, que trop souvent ces enfants de Dieu ignorent, peut-être pas sur le plan intellectuel, comme je disais tout à l'heure, mais sur le plan expérimental, et ils ne voulaient pas qu'ils ignorent cela. Alors c'est peut-être normal au début, j'ai envie de dire, de notre vie chrétienne, parce que quand on s'approche de Dieu, soyons honnêtes, c'est pas ça qu'on demande à Dieu. C'est beaucoup plus terre à terre. Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, j'ai un problème relationnel avec telle et telle personne, aide-moi. J'ai un problème matériel, aide-moi. C'est plutôt pour ça qu'on vient, hein, au départ, quand on commence notre découverte de Dieu. Vous savez, c'est, pour prendre un exemple, c'est un peu comme un couple qui ne peut pas avoir d'enfant et qui choisit d'adopter un enfant, et pour cela, il se rend dans un orphelinat. Et dans cet orphelinat, on présente aux parents un enfant, une petite fille, par exemple, de 5-6 ans, disons. Et pour faire connaissance et pour pouvoir voir comment ça se passe, comment le feeling passe entre les parents et cet enfant. Alors, voilà, ils apprennent à se connaître, les parents posent des questions à la petite fille, elle répond, et ainsi de suite. Et ça se passe pendant un certain temps, et puis au bout de quelques heures, les parents sont un peu retournés par cette petite fille. Ils ont des sentiments assez forts pour elle, et ils ont envie de l'adopter. Et à un moment donné, ils lui posent la question, ils lui disent « Est-ce que tu es d'accord pour qu'on t'adopte ?» Et la petite fille les regarde et leur dit « Oui, mais à une condition. Est-ce que vous pouvez me dire combien vous avez d'argent sur votre compte en banque ?» Parce que voilà, je suis une petite fille, mais je vais grandir, je vais faire des études, et j'aimerais bien aller dans des grandes écoles, puis j'aimerais bien que vous m'achetiez une maison aussi quand je serai grande. Et je voudrais savoir combien d'argent vous allez me laisser dans votre héritage. Là, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, là. Quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas ce qu'elle va faire, l'enfant. Si le feeling passe bien, si elle a des sentiments pour ses futurs parents, elle, quand ils lui font cette demande, elle va se jeter dans les bras et elle va se contenter de cela, en fait. C'est le temps présent qui compte pour elle. Ce n'est pas l'avenir. L'avenir, ça viendra plus tard. Ce qu'ils ont, ce qui leur appartient, enfin tout cela, c'est pas son problème. Pour elle, ce qu'elle veut, c'est d'être rassurée, c'est d'avoir des parents, c'est d'être aimée. C'est la même chose avec nous, en fait. Au départ, dans notre vie chrétienne, lorsqu'on découvre l'amour de Dieu, voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. C'est de se trouver dans ses bras, c'est de se trouver rassuré, c'est de savoir qu'on est adopté. C'est même ce que Paul dira dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Il parle de cette adoption, parlant de cette relation avec Dieu sous cette forme d'adoption. Lorsque nous allons vers Dieu, au départ, c'est comme ça, c'est pour cela. Après, bien évidemment, dans notre marche spirituelle, nous allons découvrir ce Père et les richesses de ce Père. C'est un peu comme cet enfant, reprenant cette illustration. Imaginez que cet enfant, elle soit adoptée par un couple de parents qui sont rois et reines dans leur pays, vous voyez. Un couple royal. Ça, au départ, ça ne fait pas la différence. Mais lorsqu'elle va être adoptée, lorsqu'elle va entrer dans la famille et qu'elle va grandir, on va lui apprendre des choses sur sa famille, sur son statut, et lui dire, tu sais, tu es une princesse maintenant, une vraie princesse. Et avec ce statut, il y a des privilèges, et puis il y a des devoirs, il y a des choses que tu peux faire, puis il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et on va lui apprendre un certain nombre de choses afin qu'elle puisse vivre selon le statut qui est le sien, au travers de cette adoption. C'est la même chose pour nous, en fait. Lorsqu'on se convertit, on se tourne vers Dieu, on ne réalise pas tout cela. Et puis à un moment donné, Dieu nous dit, mais tu sais, celui qui t'a adopté, c'est un roi. Tu es un prince, tu es une princesse. Tu as donc des droits, mais tu as des devoirs aussi. Et c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure, en fait. Et c'est ce que Paul fait ici. Il s'adresse à ces chrétiens d'Éphèse qui sont déjà pour une grande partie convertis depuis des années, marchent déjà avec Dieu et leur dit, écoutez, je voudrais que vous sachiez une chose. Et on va voir ensemble ces trois points. Ces richesses spirituelles. Si tu peux passer au plan directement. L'appel de Christ, le trésor de Christ et la puissance de Christ. L'appel de Christ. Paul dit, je prie pour vous afin que vous réalisiez quelle est l'espérance qui est attachée à votre appel. La conversion correspond à un appel. On se convertit parce qu'on est appelé, en fait. Et on a répondu à cet appel. C'est la fameuse invitation évangélique. Vous savez, Jésus qui dira si souvent, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Quand il appellera ses disciples à le suivre, ou ses hommes à le suivre pour devenir ses disciples, il dira « Suis-moi !» Cet appel à venir à lui, cet appel à le suivre. Peut-être le meilleur commentaire sur cet appel, c'est Paul qui le dit ou qui le donne dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 1er, verset 26. Il dira « Considérez, frères, comment vous avez été appelés. » Vous voyez, il revient sur cet appel. « Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, ou le salut, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Si nous sommes à lui, si, comme là, nous manifestons, comme nous l'avons déclaré ce matin au travers de ces chants, de ces cantiques, c'est parce que Dieu nous a appelés. C'est parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous a voulu. Mais s'il nous a voulu, c'est pas parce qu'on avait des qualités supérieures aux autres. C'est pas parce qu'on était meilleur que les autres. C'est pas parce qu'on était plus sage que les autres, plus fort que les autres. Non, non. Si Dieu nous a choisis, nous a appelés, C'est parce qu'il nous aime. Et ça, c'est fondamental. Parce que s'il nous a appelés uniquement parce qu'il nous aime, ça signifie aussi qu'il ne va pas nous rejeter une fois que nous nous trompons, après, que nous échouons, ça arrive, que nous sommes infidèles, que nous désobéissons. Vous voyez ? C'est pour ça que Paul peut dire, je prie pour que vous réalisiez quelle est l'espérance qui est attachée à cet appel. Votre appel n'est pas lié à votre obéissance, votre appel est lié à l'amour de Dieu, à la bonté ou à la grâce de Dieu. Et ça, c'est ce qui fait votre assurance maintenant pour l'avenir. Si le critère de son appel était notre obéissance, vous savez ce que ça signifie ? La moindre désobéissance pourrait mettre un terme à la relation avec Dieu. Pourrait tout remettre en question, en fait. En revanche, si le critère de son appel, c'est son amour et sa grâce, alors mon éventuelle désobéissance, ce qui peut arriver, ne remettra pas en cause le choix qu'il a fait, l'appel qu'il m'a adressé, la position qu'il m'a donnée d'enfant de Dieu. C'est pour ça que Paul utilisera l'image de l'adoption pour montrer à quel point c'est quelque chose de solide, quelque chose de légal même. Alors vous allez dire, bien sûr, le danger à ce moment-là, si c'est ça la théologie du salut, de l'appel de Dieu, c'est qu'on pourrait être tenté d'abuser de cela. Et de dire, si ma désobéissance ne remet pas en question mon salut, alors je ne vais pas faire beaucoup d'efforts. Tant pis si je désobéis. Paul connaissait ce genre d'arguments et de déviations qui pouvaient être données à cette vérité de l'Évangile. Et c'est pour cela que quand il reprendra cette question-là, il montrera que celui qui pense comme cela, c'est celui qui n'est pas un véritable enfant de Dieu, en fait. Si nous réagissons comme ça, si nous disons, maintenant que la grâce est là, et plus la grâce est là, plus le mal est là, plus la grâce surabonde, alors peu importe ce que je fais, si je pense comme cela, si je raisonne comme cela, ça signifie que je n'ai pas compris, en fait. Et je ne suis pas un enfant de Dieu. Et Paul dit, voilà, je prie pour vous afin que vous sachiez au fond de vous-même la certitude, l'assurance, l'espérance, tout cela qui est attaché à l'appel, parce que vous avez été appelé, choisi, parce que Dieu vous a aimé. La deuxième chose, la deuxième richesse qu'il veut que ces chrétiens connaissent bien, maintenant qu'ils sont enfants de Dieu, c'est celle qu'il exprime dans ce verset, si on peut reprendre le trésor de Christ, donc le verset d'Éphésiens. Non, c'est Corinthiens. Ouais. Oula, voilà. Avant. Voilà, merci. Donc on a vu ce premier point, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et ensuite, il dit quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Il dit, je voudrais que vous sachiez quelles sont les richesses de la gloire de l'héritage de Christ. Et l'héritage de Christ, c'est vous les saints. On peut le traduire comme cela. Ou ça peut être aussi, quelles sont les richesses de la gloire de notre héritage en Christ, pour nous les saints. En fait, la phrase que Paul a ici, dans l'original, bien sûr en grec, elle peut être traduite dans les deux sens. Et c'est pour cela que vous avez des versions bibliques qui vont parler de l'héritage de Christ pour les chrétiens, en fait. Et on a un héritage, bien évidemment. Mais aussi d'autres versions parlent, moins nombreuses certes, mais elles existent, parlent de l'héritage de Christ que sont les saints pour Christ, en fait, ou les chrétiens pour Christ. Dans ce sens-là, quelle peut être le trésor de Christ, en fait. Ce qui a le plus de valeur. On vient de terminer cette saison des fêtes avec Noël. C'était l'occasion de partager des cadeaux, d'en donner, d'en recevoir. Ça va, ça a été ? Hein ? Non, je parle aux enfants, là. Et aux adultes aussi. J'ai remarqué les belles chaussures d'Ulrich. Donc, on a eu l'occasion de recevoir des cadeaux et de faire des cadeaux. Alors, vous savez que, et ça a peut-être été le cas pour certains d'entre vous, des fois c'est un casse-tête, hein. Non ? Pour les enfants, ça va. Il n'y a pas de problème parce qu'ils inventent des jouets. Hein, et on peut leur donner les vieux aussi, enfin voilà. Il y a profusion, il n'y a pas de problème pour les enfants. Puis d'abord, ils nous font la liste, donc c'est plus simple. Pour les adultes, pour les parents, pour les grands-parents surtout, ils ont tout, eux. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va leur acheter ? Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'on va leur acheter ? Qu'est-ce qui peut leur faire plaisir ? Ouais. Ça peut être un vrai casse-tête, mais c'est encore rien, ça. Imaginez maintenant que pour le Noël prochain, vous entriez dans la famille du plus riche homme de la Terre. Je crois que ça doit être Bill Gates. Ça a dû changer ces derniers temps, mais enfin, peu importe. Voilà, près de... Voilà, un milliard près, ça doit être... Ça doit être Bill Gates. Imaginez que vous entriez dans la famille de Bill Gates et que pour le Noël prochain, vous deviez acheter un cadeau pour Bill Gates. Bill Gates. Ben, bon courage, hein, mes amis. Qu'est-ce qu'on peut acheter pour un homme qui a des milliards sur son compte en banque et forcément qui a eu l'occasion d'acheter tout ce qu'il avait envie et tout ce qu'il avait besoin? Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Vous voyez, acheter un cadeau, c'est... Ce qu'on aime quand on offre un cadeau, c'est que la personne fasse... Waouh! Quelle surprise! Alors, des fois, ils font semblant, mais... C'est exactement ce que j'ai voulu. Ah, j'avais rêvé d'avoir ça depuis tellement longtemps. Merci, je suis tellement content. Vous voyez, c'est un peu ça, non? Comment provoquer ça chez Bill Gates, vous voyez? Comment faire? Avec quoi? Alors, j'ai une idée. Je vous la transmets comme ça, si ça peut vous aider. Par exemple, ça. Bah, quand même. Vous savez le prix, hein? Hein? Il a été vendu l'année dernière, autour des 400 millions d'euros. Là, pour ça, ça pourrait lui faire plaisir, hein? Ou peut-être carrément la Joconde, hein? On va essayer de négocier. Parce que il faut que ce soit quelque chose, vous voyez, qui ait vraiment un impact. Quelque chose qu'il ne possède pas, quelque chose voilà, qu'il aime, s'il aime la peinture. J'espère qu'il aime la peinture. Si c'est le problème qu'on peut avoir avec des hommes ou des femmes très riches, et même des fois dans le cadre de la maison, quand ils ne sont pas riches, mais ils ont déjà beaucoup de choses, qu'est-ce que ça peut être alors avec Dieu? Quel cadeau qui peut lui faire « Waouh !» Qu'est-ce qu'il peut considérer comme son trésor? Le bien le plus précieux? Ben Paul répond. Il dit, vous et moi, les saints que nous sommes, et les saints, pas au sens où on l'entend souvent, vous savez, hein, ceux qui sont tellement dans la sainteté, tellement au-dessus des autres, qui... On les met à part. Non, non, quand Paul parlait des saints, il parlait de tous les chrétiens, tous ceux qui étaient engagés avec Christ, tous ceux qui avaient vécu la nouvelle naissance, une œuvre de conversion. Et c'est ce qu'il fait quand il parle aux Corinthiens. Il commence la première épître aux Corinthiens en parlant, en s'adressant à eux comme les saints. Et quand on lit le reste de l'épître, on s'aperçoit que Il y en avait quelques-uns qui avaient quelques problèmes quand même. Mais c'était pourtant les saints. Ainsi qu'ils étaient qualifiés par Paul. Alors on va peut-être dire, oh, bah oui, Paul il se laisse un peu emporter là quand même. Des fois ça arrive, hein, c'est les prédicateurs, ils exagèrent un petit peu. Un peu trop loin là, il va. Ben, pas tant que ça, parce que quand on lit la fin de ce chapitre, le texte d'Éphésiens, la fin, quand il dit, il a tout mis sous ses pieds, pardon, et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il parle de l'Église ici qui est la plénitude. Le mot qu'il utilise, c'est un mot que parfois on utilise quand on parle, je sais pas, disons d'un sportif. Vous voyez, vous avez des jeunes sportifs, on voit déjà qu'ils ont ce qu'on appelle un potentiel. Ils ont un talent extraordinaire, bon, c'est pas encore développé, mais s'ils continuent, on a des footballeurs qui sont comme ça en ce moment, et d'autres sportifs, et s'ils continuent, s'ils s'entraînent bien, s'ils travaillent bien, un jour, ils vont être champions du monde, ils vont être au-dessus des autres. Ouais, on voit ce potentiel. Et puis quand ils arrivent à maturité, quand ils arrivent là à un certain âge, avec une certaine expérience, et on voit là de quelle manière ils éclatent par leur talent, et on dit, ah ça y est, ils sont arrivés là, dans cette plénitude. C'est de cela dont Paul parle ici. Et il dit, quelle est la plénitude pour Christ? C'est l'Église. Ce sont les saints. C'est vous et moi. Ça, c'est ce qui correspond à la plénitude. Le moyen par lequel Dieu a révélé comme jamais auparavant l'immensité de ce qu'il est, c'est-à-dire de sa bonté, de son amour, de sa beauté, de sa gloire, ben c'est l'Église en fait. C'est pas pour rien que l'apôtre Pierre dira dans l'une de ses épîtres que les anges aiment plonger leur regard sur cette Église en fait. Parce qu'ils découvrent quelque chose de Dieu qu'ils ne connaissaient pas à ce point-là en tout cas. En ce qui concerne notamment la bonté et la grandeur de Dieu ou la gloire de Dieu. Donc Paul dit, je prie pour que vous réalisiez à quel point vous êtes le trésor de Christ. Il y a un de mes théologiens favoris, pasteur théologien, qui s'appelle Dr. Martin Lloyd-Jones, qui a dit ceci en ce qui concerne ce texte. Il dira, notre niveau de compréhension de cette parole, notre degré de compréhension de cette réalité déterminera notre capacité à résister au mal. Plus nous allons comprendre ce que nous sommes, ou que nous sommes son trésor, ou le trésor de Christ, plus nous deviendrons forts pour dire non au mal. Je fais le lien entre les deux, il dit. Plus nous allons saisir à quel point nous sommes l'objet de l'amour de Dieu, plus ce sera une force pour résister à ce qui est contre Dieu, en fait. Il y a quelques mois de cela, j'ai accompagné quelqu'un qui était dans une grave dépression. À tel point qu'il m'a avoué un jour dans une conversation que, quelque temps auparavant, il avait tellement plongé dans la dépression qu'il avait vraiment pensé mettre fin à ses jours. Il avait pensé à cela très fortement. Il était sur le point de le faire un jour. Et il m'a dit, ce qui m'a retenu, ce qui m'a empêché de faire ce geste fatal, c'est l'amour de mes parents pour moi. J'ai des parents extraordinaires, qui m'ont aimé et qui m'aiment. Et la pensée, m'a-t-il dit, la pensée que de terminer ainsi ma vie, et ce geste-là allait tellement les faire souffrir parce qu'il m'aime tellement que ça m'a arrêté de le faire, en fait. Ça m'a empêché de le faire. Il m'a dit, c'est la seule chose qui m'a retenu à ce moment-là. La seule chose. C'est de savoir que j'étais aimé de quelqu'un. Et que de faire cela allait terriblement le faire souffrir. Et je ne voulais pas qu'il souffre. C'est de cela dont Paul parle ici. C'est de savoir à quel point nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes son trésor. Plus nous aurons cette compréhension, cette connaissance de cette réalité, plus nous pourrons dire non au mal, en fait. Ça, c'est vrai sur le plan humain, dans les relations parents-enfants. Vous savez, on le voit souvent. Vous voyez à quel point les parents sont fiers lorsque leurs enfants réussissent. Hein, plus fort que nous. Hein. Quand nos enfants, ils font quelque chose de bien. Et vous voyez ça dans les médias, vous savez, dans le même sportif, mais dans tout, en fait. Vous voyez, les parents, ils sont tellement réjouis, ils sont tellement fiers. C'est mon fils, c'est ma fille qui a fait ça. On ne peut pas se retenir. C'est comme ça. C'est cette gloire qui est là sur le Fils, elle rejaillit sur les parents que nous sommes. C'est vrai dans l'autre sens aussi. Quand des enfants échouent, font des choses terribles. J'ai vécu, par exemple, et j'ai été à côté de parents dans un tribunal où leur enfant était condamné à 20 ans de prison. Croyez-moi que j'ai vu ce que ça voulait dire aussi. De ressentir la honte, la culpabilité, l'humiliation. À cause de ce que son enfant avait fait. C'est comme ça, les liens sont tellement forts que ce qu'ils vivent, nous le vivons avec eux en fait. C'est de cela dont Paul parle. Dans notre relation avec Dieu, en fait. Lorsqu'il dit, je prie pour que vous réalisiez à quel point vous êtes la gloire de Dieu. Vous êtes le trésor, la beauté. Si on posait la question à Jésus et on disait, quelle est ta plus grande richesse, Jésus? Quel est ton plus grand trésor? Ce dont tu es le plus fier. Ta plus grande réussite, sans aucune hésitation, il dirait vous et moi. Sans aucune hésitation. Pour cela qu'être le plus grand trésor de Christ, cela devient notre plus grand héritage et notre plus belle richesse. Savoir que le Créateur de l'univers, le Seigneur de toutes choses, nous regarde comme ce qu'il a de plus précieux dans toute sa création. C'est ce qui nous donne une force extraordinaire pour affronter notamment les obstacles de la vie. Parfois les rejets aussi. On n'est pas forcément aimé de tout le monde. On est parfois rejeté par des proches. Et ça crée une vraie douleur, bien évidemment. Mais si nous savons que nous sommes aimés et le trésor de celui qui règne sur tout l'univers, ça nous aide à endurer le rejet qu'on peut vivre ici-bas de la part de quelques-uns. Et Paul disait, je prie pour cela, parce que ça, c'est une des plus belles richesses. Si nous réalisons cela, si nous comprenons cela, alors nous allons pouvoir affronter, oui, bien des obstacles. Et pour cela, il poursuit dans sa prière, et c'est le troisième point, qui va les aider aussi à affronter des difficultés ou à faire face à des obstacles. C'est la puissance de Christ. La puissance de Christ, si on peut reprendre ce verset, la puissance de Dieu dans la création. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous? Donc il prie pour cela, pour qu'il... Les chrétiens et les chrétiens que nous sommes, nous connaissions bien quelle est la grandeur surabondante de sa puissance ou infini, comme d'autres versets disent, d'autres versions, envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Et il a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Paul dit, la puissance surabondante de Dieu envers nous qui croyons, lorsque nous croyons. Faisons partie de ces hommes et de ces femmes qui croient. Nous confessons, nous avons une confession de foi. Nous reconnaissons que nous avons foi en Dieu. Mais lorsque nous savons cela, lorsque nous reconnaissons cela, lorsque nous disons que nous croyons, Paul dit, souvenez-vous d'une chose, c'est que si vous croyez, vous avez été l'objet de la puissance de Dieu. Il a fallu toute la puissance de Dieu pour vous amener à voir cela, à le reconnaître, à l'accepter. Il y a eu une œuvre de Dieu extraordinaire. Paul savait de quoi il parlait. Vous savez comment il s'est converti, Paul. Dans quelles circonstances? Sur le chemin de Damas, alors qu'il était le persécuteur des chrétiens. Il ne voulait rien avoir à faire avec l'Évangile. Il voulait tout faire pour détruire ces nouveaux chrétiens, cette église naissante. Et il allait à Damas pour continuer son œuvre de prédateur là, sur les chrétiens. Et puis Jésus l'arrête sur la route de Damas et lui parle. Il y a eu une action puissante de Dieu. Alors spectaculaire aussi, ce n'est pas le cas pour tout le monde, bien évidemment. Mais il y a une action puissante de Dieu dans le cœur. Et ça, c'est ce qui doit produire chez nous constamment de l'émerveillement, vous voyez, et de l'étonnement. D'être ici ce matin et de louer le Seigneur et de dire, Seigneur, je croise en toi, ça doit susciter en nous de l'émerveillement. Mais Seigneur, mais c'est quand même extraordinaire que je crois en toi. Il y a quand même tellement de gens qui n'y croient pas. Et j'ai été parfois tellement longtemps sans y croire. Et là, je croise en toi. Je suis sensible. Je viens là dimanche matin, il pleut, il fait gris. Enfin, tout nous dit, reste au lit, en fait. Non, c'est pas le sentiment que vous avez eu ce matin? On est ouvert, on dit, non, allez, on ferme les... On garde et on reste au lit sous la couette. C'est beaucoup mieux comme ça. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'est levé? Et qu'on est venu, et on a mouillé un peu, parce que le parking est loin maintenant, et on n'avait pas de parapluie en plus. Et... Mais on est là, on est content d'être là. On est heureux de passer ces moments-là. Qu'est-ce qui fait que c'est si extraordinaire, en fait? C'est parce qu'il a fallu toute la puissance de Dieu pour cela. Nous amener à croire. Et quand Paul veut nous donner une petite idée de l'immensité, de la puissance de Dieu, il n'y a qu'une chose qui lui vient à l'esprit. Il aurait pu parler, je ne sais pas, il n'aurait pas parlé de la bombe nucléaire parce que ça n'existait pas à l'époque. Mais il y a des puissances naturelles. Hein. Il aurait pu parler de la puissance d'une éruption volcanique, par exemple, d'un tremblement de terre, d'un ouragan. Une tempête, ça dégage de la puissance, ça. Non, ce qui lui vient à l'idée, pour évoquer au mieux ce qu'est la puissance de Dieu, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Le cœur de l'Évangile, vous savez où ça se passe ? Le cœur de l'Évangile, ça se passe dans un cimetière. En général, tout est calme là. Hein. S'il y a des gens qui sont là, ce sont des gens qui viennent pleurer leur mort. Sinon, il n'y a rien. On ne vit pas dans les cimetières. Sauf si on est le gadarénien, avant sa délivrance. Il ne se passe rien là. Il ne se passe plus rien, justement. Tout est fini. On n'attend rien. Et là, c'est la vie qui surgit. La puissance de vie. Eh bien, Paul dit, cette puissance-là qui s'est manifestée au moment de la résurrection de Jésus, c'est la même puissance qui se manifeste dans notre cœur lorsque nous sommes amenés à croire, à être sensibles. C'est cette puissance-là qui nous transforme et qui nous change. Et il ne faut pas moins que cette puissance-là, plus forte que la puissance nucléaire, cette puissance, elle n'est pas seulement là manifestée au début, mais elle continue de se manifester. Et on en a besoin, et on en aura besoin encore cette année qu'on en a eu besoin les années précédentes. Parce qu'on ne compte pas sur nous, hein. Nous on n'est que faiblesse. On compte sur sa puissance. Alors pour nous aider à comprendre cela, je vous donne une autre prière de Paul. Celle qu'il a rendu public et qu'il adressait à Dieu pour les chrétiens de Colosse, les Colossiens. On va prendre juste une partie, on ne va pas tout prendre parce qu'on s'arrête sur celle aux Éphésiens, mais dans cette prière, il dit, voici, ce que je demande à Dieu, c'est de vous fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que vous puissiez être persévérants et patients. Il y a deux qualités, hein, la patience et la persévérance. C'est relativement proche, hein, parler de patience et persévérance. Voilà, c'est pas très éloigné. Mais il y avait quand même une différence. C'est pour ça que Paul cite les deux, en fait. L'endurance d'un côté et la patience de l'autre côté. Et les spécialistes nous disent que dans le grec, la persévérance ou l'endurance, elle était plus face, indispensable, nécessaire, face aux situations, aux circonstances difficiles, contraires de la vie, comme on peut tous en avoir. Et là, il faut persévérer, là, il faut endurer, vous voyez. Et puis, ils nous disent que la patience, elle est plus nécessaire, là, non pas par rapport aux circonstances, mais par rapport aux personnes. Il y a des gens, dans notre entourage, des fois, où il faut être patient. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils nous rendent des fois la vie difficile. Ils compliquent les choses. Et là, il faut être patient. Et là, il faut avoir de la force, vous voyez. Là, il faut avoir de la patience. Paul dit, je prie pour vous, pour que cette force-là, cette patience, ou cette puissance à tous égards, vous soit donné pour que vous puissiez être persévérant face aux situations difficiles que l'on va connaître en 2018, face aux gens difficiles que l'on va rencontrer en 2018. Certains vont dire c'est déjà fait. Tu veux que je te raconte ma semaine? À peine arrivé dans le bureau, après une semaine de vacances, boum boum! Là, Paul dit, vous pouvez compter sur la puissance de la résurrection qui peut vous rendre fort face à ces situations ou à ces personnes. C'est William Barclay qui disait, pas le banquier, mais un autre. William Barclay, un théologien écossais du XXe siècle, il disait, est-ce que je l'ai écrit là? Non, je ne l'ai pas écrit. Écoutez bien ceci, il disait, la force que Dieu nous donne est telle que la cruauté des gens à notre égard ne réveillera pas en nous de l'amertume, que leur folie ne nous poussera jamais à nous irriter, et que leur manque d'amour ne nous empêchera jamais de les aimer. Voulez-vous que je vous le redise ? La force que Dieu nous donne est telle, par cette puissance de Dieu qui est à notre disposition, qui est pour nous, est telle que la cruauté des gens à notre égard ne réveillera pas en nous de l'amertume, que leur folie ne nous poussera jamais à nous irriter et que leur manque d'amour ne nous empêchera jamais de les aimer. Et quand Paul disait d'être persévérant et patient, il ajoutera avec joie. C'est pas mal ça, hein, comme complément. Avec joie. Comment est-ce qu'on peut faire ça, humainement parlant, sans la patience de Dieu? Par son appel, Dieu nous donne une garantie, une assurance, une espérance pour notre avenir. Parce que nous sommes son trésor et qu'il nous donne sa puissance pour faire face à toute situation difficile. Tout cela, je suppose que beaucoup d'entre vous le savaient déjà. En tout cas, j'espère, pour vous qui avez quelques années de vie chrétienne. Vous le saviez déjà. D'autres ne le savaient pas et peut-être l'ont appris ce matin. Mais si Paul priait pour que les chrétiens connaissent cela, connaissent ces richesses, c'est parce qu'il savait que ce n'était pas suffisant simplement de l'entendre. Sinon, il se serait contenté juste de l'écrire et dire « Je veux que vous sachiez que l'espérance est attachée à votre appel, que vous êtes le trésor de Christ et que vous avez la puissance de Christ en abondance. » Il aurait pu se contenter de faire ça, mais il n'a pas fait ça. En même temps qu'il leur rappelle ou qu'il leur apprend, il leur dit « Mais maintenant que je fais cela, de vous l'apprendre, de vous l'enseigner, je prie Dieu pour qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je prie Dieu pour qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Le mot qu'il utilise en grec, qui est traduit par révélation, c'est apocalypsis, qui a donné apocalypse. Eh oui, le mot apocalypse que vous avez à la fin de votre Bible, pour le titre du dernier livre, signifie révélation, ôter le voile. Il disait, je prie Dieu qu'il vous donne un esprit de sagesse et qu'il ôte le voile en fait, pour que vous puissiez le connaître. Et aussi je prie pour qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il dit, s'il n'y a pas une action de Dieu, de l'esprit de Dieu dans vos cœurs maintenant, cette parole-là, elle n'aura aucun effet. Vous savez, sur le plan de la foi, on connaît bien des choses. On connaît bien des vérités. Mais ce n'est pas parce qu'on les connaît dans notre tête qu'elles sont vécues dans notre vie. Il y a un décalage. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit, mais c'est bien de l'apprendre, c'est bien de l'enseigner, c'est ce que je fais ce matin, c'est ce que d'autres font. C'est bien de le lire, quand on lit la Bible, c'est bien tout cela, il faut le faire, mais maintenant il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller au-delà et dire « Seigneur, face à cela, j'ai besoin que tu illumines les yeux de mon cœur, que tu fasses quelque chose. » Donc ce que je vous propose de faire, pas cette semaine, dans votre temps de prière, si vous avez un temps de prière par jour, j'espère que vous en avez un, si vous n'en avez pas, prenez-en un. Prenez même plusieurs, oui, ce n'est pas défendu. Là, vous pouvez prier sans modération. Ce n'est pas comme l'alcool, hein, vous voyez. Il n'y a pas de limite. Mais déjà, un temps de prière par jour. Vous prenez ce temps de prière et vous pouvez faire ce petit exercice. Reprenant ces trois points. L'espérance qui est liée à l'appel, le trésor de Christ et la puissance de Christ. Dire, Seigneur, ça c'est pour moi, ça c'est à moi. Je te prie pour que tu m'aides à vraiment comprendre cela et à vivre cela. À réaliser à quel point je suis ton trésor. Là, je suis rejeté par quelqu'un. Là, je suis haï et j'ai eu ce sale coup avec cette personne. Et voilà, naturellement, j'ai envie de la rejeter, j'ai envie de mériter tout cela. Seigneur, je veux savoir à quel point je suis ton trésor et que tu me donnes ta puissance, qui n'est pas moins que la puissance que tu as manifestée dans la résurrection de Christ. Et il ne faut pas moins que cette puissance-là pour m'aider à être fort dans ces moments-là. Alors je te prie pour que tu me donnes cela, de vivre cela. Posez-vous la question aussi, quelle différence ces richesses qui m'appartiennent, lorsque je les réalise, quelle différence cela fera-t-il dans ma vie, dans ma relation avec les autres, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes collègues, avec ceux avec qui je vis. Quelle différence! Je peux vous assurer que ça fera une différence. Une grande différence. Cette différence, certains déjà la connaissent aujourd'hui. Ils pourraient en témoigner. C'est d'aller plus loin. On va prier ensemble maintenant pour que Dieu, après avoir entendu ces enseignements de Paul au travers de cette prière, que nous puissions prier pour que Dieu illumine nos cœurs, qu'il nous donne cet esprit de sagesse et de révélation. Parce que sans cela, on a passé peut-être un bon moment, mais rien ne changera. Nous voulons que tout change. Et cela se passe au travers de l'œuvre de Dieu. Seigneur, nous te prions ensemble. Et nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu es devenu pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose que nous savons parfois pas du tout, et que nous avons besoin d'apprendre, et que peut-être certains ont appris ce matin. Mais c'est quelque chose que nous pouvons aussi bien connaître et bien savoir, parce que nous l'avons entendu bien des fois, nous l'avons lu bien des fois. Mais sans vraiment le réaliser, Seigneur. Sans réaliser, Seigneur, que grâce à ton appel, parce que tu nous as choisis, Seigneur, par amour pour nous et non pas parce que nous avons obéi, Seigneur, alors notre avenir est garanti. Nous avons une véritable espérance, une assurance pour demain, Seigneur, et que notre désobéissance d'aujourd'hui ou de demain ne remettra pas en question, Seigneur, ce salut que tu nous as donné. Alors aide-nous, Seigneur, à recevoir cette révélation, qu'elle soit la nôtre maintenant, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, dans nos actions, dans nos relations. Aide-nous à comprendre un peu plus ce matin à quel point nous sommes ton trésor. Que tu es fier de nous. Nous sommes ton héritage, ta portion, comme Israël était appelé la portion de Dieu. Nous sommes ta portion, ton partage, ton bien le plus précieux, Seigneur. Seigneur, aide-nous à mesurer cela un peu plus. Afin que si nous sommes rejetés par quelques-uns, ne soyons pas totalement détruits par cela. Et nous puissions retrouver, Seigneur, des forces dans notre relation avec toi. Et face aux difficultés de la vie, Seigneur, face parfois à des personnes que nous rencontrons et qui nous font du mal, tu nous donnes ta puissance, qui n'est pas moins que la puissance de résurrection, pour faire face, pour surmonter, pour être persévérant, pour être patient, et le faire avec joie, Seigneur. Alors, agis maintenant. C'est la prière de l'Église que nous t'adressons maintenant. Agis maintenant dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur, pour que dans cette année 2018, nous puissions vivre cela un peu plus encore, un peu mieux encore, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.